prière avec moi d'une part, et puis d'autre part à ouvrir vos Bibles en 2 Corinthiens. De Corinthiens, chapitre 5. Prions. Voilà, Seigneur, nous nous retrouvons autour de ta parole, parce que tes paroles sont source de vie. Elles sont à l'origine de notre foi. Si tu n'avais pas parlé, Seigneur, nous ne te connaîtrions pas, nous ne connaîtrions pas Dieu, en tout cas pas comme ça, et nous n'aurions pas le salut. Alors nous revenons à ta parole et nous voulons qu'elle nous illumine tout à nouveau, et je te prie de m'inspirer, moi, spécifiquement qui prêche. Amen. Donc 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 5, pardon. À partir du verset 17 et jusqu'au 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice en lui. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai voulu prêcher sur ce texte? J'ai partagé à la ruche vendredi une expérience que je vais vous repartager maintenant. Donc, désolé pour ces dames qui vont avoir deux fois l'histoire. Quand j'étais étudiant en théologie à la faculté Jean Calvin, j'avais des copains et des professeurs qui m'ont souvent entraîné à aller évangéliser dans la rue. Alors on partait, bande de théologiens, avec nos Bibles dans les parcs, et on essayait de discuter avec les gens, de parler de Jésus et tout ça. On a fait du porte-à-porte aussi dans les cités U. Vous savez, on distribuait des questionnaires, enfin, on trouvait des trucs, quoi. Et j'aimais pas ça. Je le vivais mal. Mais vraiment, hein, j'avais l'étau, d'un côté, la culpabilité chrétienne, tu vois. Les jeunes étudiants en théologie zélés, ils ont toujours le super verset pour te dire à quel point... c'est pas normal que tu n'ailles pas évangéliser parce qu'un chrétien, quand même, ça évangélise. Et de l'autre côté, le mal-être que j'allais ressentir une fois que j'allais être embarqué dedans. C'est pour ça qu'après la fac, je ne l'ai plus jamais fait. Sauf vendredi dernier. J'ai un ami qui m'a emmené. Mais c'était pour me montrer autre chose. Et il m'a effectivement montré autre chose. Et on a passé une après-midi à Nîmes. aller rencontrer les gens pour annoncer l'évangile. Et je l'ai super bien vécu. Et j'étais ravi. Et j'étais en paix. Mais plusieurs choses ont changé, en fait, ou ont été montrées. Et je trouve que ce texte-là est la meilleure illustration de ce que j'ai vécu. J'aime beaucoup ce texte. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Déjà, mon ami, il n'évangélise pas les gens qui ne veulent pas. Il aborde les gens avec un petit Nouveau Testament, il leur pose la question, est-ce que, voilà, on voulait vous offrir ce Nouveau Testament, est-ce que vous connaissez, des évangiles, pardon. Et si les personnes ne sont pas d'accord, ils n'insistent pas. Ils ne cherchent pas à donner à manger, à boire à des gens qui n'ont pas soif. Et on a discuté avec un SDF qui était là au bord de la route, de la place piétonne, et on discute avec lui, il était très ouvert et tout, puis en quelques questions, on discerne qu'il est musulman, ou en tout cas de confession musulmane, avec donc ces espèces de parallèles qu'on trouvait. On lui parle de Dieu, il dit oui, Dieu, bien sûr, on lui parle de salut, il dit oui, enfin, des tas de choses où on se comprend, puis des tas de choses où des fois, pouf, on part très, 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 très loin. Et puis en discutant avec lui, à un moment, en fait, je me mets à débattre sur qui est Jésus. Et rapidement, mon ami, avec finesse, clôt la conversation et puis on s'en va. Il me dit, paf, t'es tombé dans le piège. Je dis, ah bon ? Oui, tu as débattu. Il t'a emmené dans l'arène du débat et tu t'es fait avoir. Il dit, on n'est pas là pour débattre, en fait. Alors que je peux vous dire que quand on était à la fac de Théo, les arguments, on les avait en classeur sous le coude. Il me dit, non, on n'est pas là pour débattre, parce qu'en fait, ce n'est pas la sagesse humaine qui fait naître la foi. Là, je vous lis juste toujours dans 2 Corinthiens 5, là. Au verset 13. En effet, si nous sommes hors de sens, c'est pour Dieu. Si nous sommes de bon sens, c'est pour vous. Comment est-ce qu'il faut le comprendre ? C'est que vis-à-vis des gens de l'extérieur, notre message, il est fou. Vis-à-vis des gens de l'intérieur, ce message, il peut être compris. Je m'explique. C'est quoi notre message ? C'est que l'homme qui s'appelle Jésus de Nazareth et qui a vécu il y a 2000 ans, il est ressuscité. Mais qu'il est plus que ressuscité, c'est qu'il est vivant aujourd'hui et qu'il habite dans une dimension invisible qu'on ne voit pas, qu'on appelle les cieux, et que de cette dimension invisible, il peut envoyer son esprit qui va venir prendre place dans ton cœur et qui va changer ta vie. C'est ça ? Et que si cet esprit vient dans ta vie, toi, quand tu seras mort, tu vas ressusciter. Ouais, c'est un peu barré comme message. Non ? Dit comme ça. Qu'est-ce qu'on attend, nous, les chrétiens ? On attend que Jésus, donc le gars toujours le même, Nazaréen, qui a vécu il y a 2000 ans, il apparaisse dans les cieux avec sa armée d'anges et puis qu'il descende sur terre et qu'il restaure la justice. Voilà. Si je propose à quelqu'un de rencontrer Christ, de recevoir son esprit, soit le Seigneur suscite la foi et il dit oui, soit mon discours, c'est celui d'un mystique. Vous voyez ce que je veux dire ? Un mystique, c'est quelqu'un qui a des visions, qui a une expérience intérieure indescriptible. Voilà. Rémi, est-ce que tu sens la présence de Dieu en toi ? Est-ce que tu peux nous décrire, nous expliquer qu'est-ce que ça fait d'avoir l'Esprit de Dieu en toi?
Ouais. La paix, ben voilà. Est-ce qu'on peut vraiment expliquer ça?
Voilà, là on rentre dans la mystique. Donc cet ami qui me dit le débat, le débat d'idées, la joute d'arguments, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Ok, alors je range mes. Et on continue, et puis on s'arrête autour d'un couple, c'est avéré aussi qui était musulman, et qui nous dit non. Clairement non. Alors on propose de les bénir. Ils ont dit non, 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 c'est bon. Alors on les laisse vraiment tranquilles. Nous ne pouvons rien faire. Et puis on continue notre trajet. Et puis il m'explique. Non, mais moi je cherche des gens qui, quand je leur parle de Jésus, ils sont curieux, qu'ils ont envie d'aller plus loin. Et s'ils sont ni curieux, ni. En fait, je les laisse tranquilles parce que le Seigneur ne les cherche pas non plus, probablement, tu vois. Alors si y a des petites. Si je sens qu'il y a quelque chose qui veut, mais qu'il y a une sorte de pudeur ou de gêne qui fait qu'il ne peut pas aller plus loin, j'essaie de sentir ça. Donc là, effectivement, on peut creuser, on peut essayer de jeter quelques arguments pour dégager la personne, mais si elle ne veut pas, on n'insiste pas. Et puis on arrive près d'un groupe d'études de lycéens qui étaient là. Mon ami s'est mis à discuter avec l'un, moi je me suis mis à discuter avec deux, qui étaient très touchants. Il y en avait un qui était un enfant. De famille d'accueil qui avait une vie terrible, et puis l'autre, un espèce de geek qui vivait toute sa vie devant les écrans, agoraphobe et plein de problèmes et de ci et ça. Et bon, j'ai pas, voilà, ils n'ont pas voulu aller plus loin, même si on a parlé de la foi, de la spiritualité, de ces choses-là. Puis au sortir de tout ça, il fallait qu'on rentre. Donc, et mon ami me demande ce que j'ai vécu. Je le raconte. Et il me dit, qu'est-ce que tu as ressenti? Ben, je dis, j'avais envie de leur faire un gros câlin. Ils m'ont vraiment touché, ces jeunes-là. Ils me disent, ça, ce que tu ressens, c'est de la compassion. Et c'est fondamental pour annoncer l'évangile aux gens. Il faut avoir envie de les sauver de leur situation, enfin, de les sortir de là. Il me dit, mais qu'est-ce que tu pouvais faire? Mais rien. Je ne pouvais rien faire. Je lui dis, je me sentais impuissant. Il m'a dit, mais c'est quoi la solution? C'est Jésus. Il me dit, mais tu l'as. Tu l'as. Ça, tu peux le donner. Et là, ça m'a troublé. Que c'est un théologien, ce gars aussi. Il a fait la fac, il a un cerveau comme ça. Il m'a rappelé quelque chose de fondamental. C'est que la foi, elle vient avant la doctrine. Pas d'abord on comprend la Trinité, c'est pas d'abord on comprend la double nature du Christ, c'est pas d'accord on comprend le concept de la mort substitutive du Christ et ensuite on a accès au salut. D'abord c'est une rencontre avec Jésus qui va être remplie après par toute la connaissance du disciple. Moi, c'était tellement audacieux. Moi, je connais Jésus-Christ. Il est mort, mais il est revenu à la vie et il peut venir mettre sa présence dans ton cœur et transformer ta vie. Je peux te le donner. Il veut te rencontrer. Est-ce que tu veux l'accepter? Est-ce que tu voudrais ça? Et là, je reviens sur ce texte. De Paul, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Attends de revenir sur ce texte, je fais une petite pause.
J'ai beaucoup réfléchi sur pourquoi j'avais si bien vécu ce temps d'évangélisation.
Parce que je me dis, mais ça ne me ressemble pas, alors peut-être que j'ai pris 20 ans de bouteille et que maintenant je suis plus mûr. Ou...
Et en fait, je ne pense pas. Je pense qu'en fait, la façon dont mon ami m'a conduit là-dedans, elle est complètement douce, elle est complètement respectueuse, elle ne s'impose pas, elle ne cherche pas à gagner, elle ne cherche pas à montrer aux gens qu'ils ont tort et que nous, on a raison. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de conflit entre eux et nous. Ils ont, on est conscient qu'ils ont un conflit avec Dieu, mais pas avec nous. Ils nous ont rien fait, on leur a rien fait. Et toute cette approche-là a vraiment m'a mis complètement en paix, en fait. Et très souvent, avant, quand j'essayais d'apporter l'évangile, c'était du débat. C'était qui a raison, qui a tort. Hein? Et qui va gagner la joute? Et puis quand même, pour que je sois bien sûr que lui soit converti, faut que je sois sûr qu'il ait bien conscience de la noirceur de son péché, que je vois bien visuellement. Ah oui, il a eu un profond sentiment de culpabilité. Alors là, je sais qu'il s'est converti. Et des choses qui sont très dures, en fait. Là, j'étais en paix. Donc, je reviens sur le texte. Nous sommes ambassadeurs de Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions. Au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Moi, on m'a appris à mettre beaucoup de conditions à la conversion. Je pense qu'il y a beaucoup de conditions à la vie de disciple. Mais qu'il n'y a pas beaucoup de conditions à la conversion parce que celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions justice en lui. Dieu a mis le paquet, il a vraiment mis en place tout ce qu'il y avait à faire pour que la réconciliation entre lui et les hommes puisse avoir lieu dans la simplicité totale. Dieu, en Christ, manifeste qu'il est ardemment désireux de se réconcilier. On est donc légitime pour dire à qui que ce soit, Jésus a envie de te rencontrer. Jésus a envie de rentrer dans ta vie et de faire quelque chose, même si je ne sais pas exactement ce qu'il va faire. Jésus a envie de. Et nous sommes mandatés pour ça. Et pas de, oui, le Christ peut venir dans ta vie à condition que. Parce que le à condition que a été pris en charge justement par ce Dieu qui a fait peser tout le péché, toute l'arrogance, toute la révolte et tout sur Christ afin que nous puissions avoir un accès à lui simple et direct. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Comme s'il y avait deux personnes qui ne se parlaient plus depuis des années, que vous vous passez la soirée à discuter avec l'un jusqu'à pas d'heure, et il pleure et il vous explique à quel point ça lui manque cette situation, cette relation qu'il y avait avant et que enfin voilà, il ferait tout ce qui était possible pour pouvoir juste repasser un moment avec cet ami qu'il a perdu et que vous sortez de cette soirée complètement bouleversée d'avoir eu le cœur ouvert de cette personne devant vous et de voir à quel point il désire ça et vous croisez l'autre. vous dites pas, oui, il a envie de te rencontrer à condition que. Vous dites surtout, il a profondément envie de te rencontrer. Comment est-ce que les deux, ils vont rebâtir leur relation après ? Quelque part, ce n'est pas votre histoire. Pas votre histoire. Vous avez peut-être participé, mais c'est d'abord le problème de Dieu. Et après ça, après cette réconciliation, vient la vie du disciple. Vient la vie où on reçoit un enseignement. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant et en leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Mais avant ça, il y a une rencontre. Il y a une rencontre simple. Peut-être tellement simple que j'ai oublié à quel point c'était simple. Et en un sens, elle ressemble tellement plus à mon Dieu, cette façon de faire, que celle que j'ai appris quand j'étais plus jeune. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup plus à un Dieu d'amour, à un Dieu de paix, à un Dieu de réconciliation, à un Dieu qui prend sur lui le prix à payer pour nous accueillir avec toute la largesse, toute la facilité et la simplicité dont il est capable. Mais comment se fait-il que je puisse donner Christ ? Paul le dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? C'est le même corps ? Je n'ai pas changé ? Je ne suis pas devenu grand blond ? Je suis toujours moi et je suis toujours à la bourre. Mais c'est le moteur à l'intérieur qui a changé. Avant, j'étais un pur diesel, maintenant je suis hybride. Je peux fonctionner à l'ancien moteur, ou je peux passer en électrique. Je peux fonctionner selon la chair, mais je peux fonctionner selon l'esprit. Et il est là, en fait. Je suis responsable du switch. Je suis responsable de veiller, comme on a vu dans la liturgie, à demeurer en Christ pour porter du fruit, à sonder, à viser, à chercher mon placement intérieur. Pourquoi je le fais ? Pour qui ? Comment ? Avec quels outils, quelles vertus, quelles armes ? Quel est mon chemin là ? Est-ce que c'est celui de la lumière ? Est-ce que c'est celui des ténèbres ? Est-ce que je passe par la fourberie ? Il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup qui dit « Si les filous connaissaient tous les avantages qu'il y a à être honnête, ils seraient honnêtes, mais par filouterie. » Mais le chrétien, non. On renonce réellement à ça. On marche par l'esprit. Et si l'esprit de Dieu est en nous, non pas que vous l'ayez trouvé, décroché, commandé sur Amazon, cela vous a été donné gratuitement. Gratuitement. Si vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est aussi simple que ça, je pense. Très confrontant pour moi, ce que je vous dis, mais très simple. Vous savez, je me pose toujours cette question, pourquoi l'apôtre Pierre, vous savez, il sort de la ville là, et puis il y a un mendiant qui est là, qui le regarde, et puis il les interpelle, et Pierre, il s'arrête, il regarde, il fait « Regarde-nous ». Alors le mendiant, il regarde Pierre, et il se dit « Qu'est-ce qu'il va me donner ?» Pierre, il a cette phrase qui me scotche, « Moi, j'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi et marche !» Et il se lève.
Comment est-ce qu'il est capable de faire ça? Alors vous allez me dire, oui, c'est la puissance du Seigneur. Pas de souci, ça je suis d'accord. Mais d'où lui vient l'audace d'avoir ces mots? Ce n'est pas toutes les réponses, mais je pense qu'une des réponses se trouve dans le fait qu'il comprend mieux que moi qu'est-ce que ça veut dire que d'être en Jésus. Et une des choses que cet ami qui m'a emmené évangéliser m'a dit, tout début, on s'est posé, on a prié, il a dit, voilà, à partir de maintenant, il ne s'agit plus de nous. Tu vois, t'es caché dans Jésus, donc tu vas rencontrer des gens, mais ce n'est pas toi qui rencontres, ce n'est pas toi l'enjeu. Ce n'est pas ce qu'ils te disent à toi l'enjeu, c'est plus, voilà, maintenant l'enjeu c'est Christ, nous on va annoncer juste Christ, ce qu'on pense, ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est, on vient parler de Jésus. Et ça m'a beaucoup aidé à réfléchir que si voilà, ce premier SDF musulman qu'on a rencontré, si moi, j'avais cherché à faire sa connaissance, si moi, Timothée Calvo, j'avais cherché à faire sa connaissance, mais je ne l'aurais pas du tout abordé comme ça. Si je ne sais pas, vous avez votre cousin qui se marie ou votre cousine, je ne sais rien, et puis qui, voilà, vous allez recevoir l'époux ou l'épouse à table pour faire. Vous allez le rencontrer d'une certaine manière. Vous êtes dans un schéma pour faire sa connaissance, pour le rencontrer. Mais quand vous êtes dans la rue en train de vouloir annoncer Christ, vous ne cherchez pas à rencontrer les gens. Ce n'est pas vous qui êtes là. Ce n'est pas vous que vous mettez en avant. Ce n'est pas vous qui rencontrez la personne. C'est vous qui apportez le Seigneur. Je suis un moyen, un ambassadeur, quelqu'un qui parle au nom d'eux, et c'est pas moi qui est en jeu. Je suis en Christ. Et une nouvelle créature qui a un nouveau nouveau moteur. Et quand Christ reviendra, j'aurai non seulement le nouveau moteur, mais le nouveau corps. Comme Paul dit. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre n'est qu'une tente, nous avons dans les cieux un ouvrage éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Une tente, c'est provisoire. C'est la tente Quechua. Vous savez, hop, c'est vite fait et puis ça, c'est vite rangé. Et il est en train de dire que ce corps-là est une tente et qu'après ça, on aura un truc en pierre massive qui dure en fait. C'est ça, notre corps-là, il est transitoire et après, on aura un truc en pierre massive qui dure. Voilà. Je vous relis ce texte. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Prenons le temps maintenant de remettre les nôtres, nos églises, nos cités, notre pays au Seigneur. Et je vous invite à prier avec moi dans l'intercession. On te remercie pour ce culte vécu en ta présence, Seigneur, pour la foi renouvelée, la vérité restaurée, le pardon assuré, le salut proclamé. Veuille garder ton église dans les jours qui viennent, afin qu'elle croisse, fortifiée par toi, qu'elle porte un fruit de paix, de joie, d'amour, qui témoigne de ta victoire et de ta venue. Que chacun d'entre nous et tous ensemble, nous grandissions tous dans la compréhension de ton amour. Aussi, nous t'apportons celles et ceux qui ne sont pas là ce matin, parce qu'ils sont souffrants, parce qu'ils sont pris dans le travail, dans les responsabilités de la vie, de la famille, bénis-les sans mesure. Puisses-tu leur accorder tout ce que nous avons reçu ce matin et plus encore. Nous te prions pour ceux qui ne sont pas là parce qu'ils sont trop fatigués, parce qu'ils traversent des épreuves trop dures ou parce qu'ils se sont éloignés de toi, blessés par la vie, blessés par ton Église même, imparfaite. Fais grâce à ton Église, fais leur grâce à eux en les libérant des chaînes du passé. Dispose-nous à retrouver le chemin vers leur amour et émerveille-les à nouveau de ton évangile. Nous prenons le temps de les nommer dans notre cœur. Nous te prions pour nos proches, nos familles, nos amis qui ne te connaissent pas. Nous soupirons de les voir te rencontrer, nous rejoindre dans l'espérance et la vie de foi. Fais quelque chose pour eux et pour nous, qui ne savons parfois plus leur parler de toi. Là aussi, nous prenons le temps de les nommer dans notre cœur. Enfin, on te prie pour nos villes et nos villages, Beauvert, Galician, Le Quélard, Beauvoisin, Vergèze, Aubord, Codognan, Bouillargues, Émargues, Marciargues. Bénis ces villages à cause de tes enfants qui y sont présents. Fais de nous des sources de bénédiction pour leurs habitants. Et accorde une sagesse, une honnêteté, une bienveillance spéciale à nos élus, qu'ils soient serviteurs et non servis. Nous te remettons enfin la France, où tu nous conduis à vivre, particulièrement en ces temps d'élection que ta sagesse habite ton pays et conduit ce pays plus loin du mal, plus loin de la corruption, plus loin de l'individualisme, plus loin du progressisme, plus loin de l'impérialisme, mais plus proche du royaume. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que nous soyons gardés fidèles, éveillés jusqu'à ton retour. Amen.